Vous écoutez France Culture, hommage à la comédienne Edith Scob, disparue en juin dernier. Aurélie Charron l'avait rencontrée en avril 2016 pour l'émission Backstage.
Est-ce qu'on peut décider votre arbre généalogique, Edith Scob?
Avec plaisir.
Alors, commencer peut-être avec les grands-pères.
Voilà, mon arbre généalogique, il commence avec mes grands-pères, parce qu'avant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, j'avais un grand-père absolument somptueux qui était général de l'armée blanche. Il avait une grande casquette, il avait énormément de décorations. Et il était très impressionnant, avec une moustache, une barbichette et tout ça. Russe, donc. Et mon autre grand-père, qui était alors diamétralement différent, lui, il était pasteur, et un pasteur extrêmement engagé, qui a commencé à être pasteur dans les Cévennes, et puis après qui est allé à Fives-Lille, une région assez très très pauvre, où il y avait énormément d'alcoolisme, d'injustice, d'enfants qui travaillaient tout jeunes, et il s'est battu socialement, terriblement sur plan social pour sauver des gens pendant la guerre. Il a sauvé pas mal de juifs, il a créé les premières colonies de vacances dans le nord au bord de la mer. Il était formidable, très tyrannique avec ses petits-enfants. Oui, parce que je me souviens de séances de prière quand il venait en vacances avec nous, où on priait très longtemps comme ça, il voulait évangéliser les Russes. Voilà, donc ça c'est vraiment des personnages fondateurs pour moi. Puis ensuite, bon, il y avait mon père, ma mère, mon père qui est devenu architecte. Et ça m'a toujours impressionné aussi, ces gens extrêmement riches et puissants en Russie, et puis qui se retrouvent absolument sans rien, avec des billets de banque qui ne valent plus rien. Donc mon père est arrivé à devenir architecte. Et puis j'ai eu deux frères, dont un que j'adorais, qui était mon frère aîné, qui était coureur cycliste, et qui a eu aussi beaucoup d'importance pour moi.
C'est drôle, c'est assez beau, parce que vous avez dessiné comme deux chapeaux pour les deux grands-pères.
Moi, je pensais que c'était deux yeux. Voilà. Et ça, c'est mon frère.
Deux yeux et trois jambes.
Oui. Oui, oui.
La glace, j'ai l'impression d'être devant quelqu'un qui me ressemble et qui revient très loin.
Le masque est tombé. Elle aurait pu toute sa vie se cacher, voire disparaître, tant elle préfère regarder que parler. Edith Scob, pourtant, a les yeux trop perçants pour les fermer. Le cœur qui bat trop fort pour rester bien droite dans un corset. À un moment, tout valse. Le masque, les fils cousus, les choses trop serrées. À un moment, on s'invente un visage et une bouche pour parler. C'est l'histoire d'une jeune fille un peu craintive qui grandit dans une famille protestante rigoriste. Plutôt timide, des manières d'oiseau, et qui décide de faire du théâtre, parce qu'elle aime dire et réciter des mots. Au début, c'est un masque. Elle sera l'héroïne fantomatique des Yeux sans visage, le film de Georges Franju qui lui colle à la peau. Christiane porte un masque blanc après son accident. Son père chirurgien veut reconstituer ce visage perdu grâce à ceux d'autres femmes. C'est la scène originelle, une présence inquiétante. Edith Scob, c'est un personnage de Tchekhov, en équilibre, en attente du début du nouveau monde. Changer le monde et inventer un nouveau langage, ça prend du temps. Et ça nécessite de tenter de tous les côtés. C'est s'inscrire au Parti communiste avant 68, c'est s'installer dans la cave d'un HLM de Bagnolet avec Georges Aperghis pour créer l'atelier théâtre et musique dans les années 70. c'est foncer pour cette nouvelle utopie en lien avec les gens. C'est tenter d'être institutrice. C'est avancer en âge comme en liberté. Edith Skob, c'est un long corps, les bras tendus au milieu du monde pour ne pas perdre le contact avec l'histoire et avec les gens. Dans son portefeuille, elle gardait un billet de 500 roubles, de l'époque du tsar Nicolas II, l'histoire est là. Elle met aussi en scène des mots actuels, elle fait l'inventaire des vies quotidiennes. Elle s'est inventée au fil des années un visage et une façon de parler, loin des choses corsetées. Edith Skob a dans la voix des folies et du concret. Les mots sont plus heureux depuis qu'elle les a adoptés. On aimerait lui faire prononcer notre vie aussi, pour qu'elle lui donne une musique et un rythme particulier. Edith Skob donne envie à chacun d'inventer son vrai visage, de se dessiner une bouche pour un nouveau langage. Il y aura Edith Skob, née Edith Vladimirovna Skobeltsine en 1937, comédienne dont on découvre le visage caché derrière un masque en 1960 chez le réalisateur Franju. Il y aura le compositeur Georges Apergis, son mari, musicien de la parole, qui a quitté son Athènes à 17 ans et n'a eu de cesse de lier le mot à la musique. Il y aura l'auteur, homme de théâtre Philippe Mignana, ex-professeur de lettres à Metz, qui aime donner une forme au réel et à l'oralité, et dont Edith aime mettre en scène les textes. Ce sera donc une famille de travail en studio. À la chanson, Françoise Breu, pour l'étrangeté et la beauté de sa voix, sur son sixième album, qui s'appelle Zo. Mais ça commence par un frère.
Michel Skob, vous êtes quoi en cycliste de demi-fond? C'est une spécialité dangereuse. Il y a eu, il faut le dire, des accidents mortels de coureurs de demi-fond en course ou encore plus à l'entraînement. Alors la peur, est-ce que vous la ressentez quand vous courez et sous quelle forme?
Je crois qu'il y a deux formes de peur chez les sportifs. Il y a l'émotion qu'ont les sportifs avant la course, qu'on appelle le trac, qui est une chose. Bon, qui est une forme de peur quand même. Puis alors, la peur physique du danger.
Oui.
Alors moi j'avoue que si je ressens très fort la première forme de peur, c'est-à-dire le trac, l'émotion avant une compétition, la peur physique du danger en vélo, j'avoue que je n'ai pas peur.
Georges Apergis, comment on rentre dans la vie et la famille de Edith Skob? On a commencé par un petit arbre généalogique avec les deux grands-pères.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a comme trace de cette famille et de ces personnages chez vous, par exemple, aujourd'hui, à travers les objets?
Oh bien, Edith a gardé pas mal de choses, hein, je pense, de sa famille, beaucoup plus que moi, d'ailleurs. Elle est très attachée à sa famille, en fait, à cette mémoire-là.
Il y a l'Espérou.
Et puis il y a la maison de vacances de son enfance. En fait, elle a de la chance. Elle devient complètement différente quand elle est là, parce qu'elle est chez elle, pas vraiment.
Edith Skob,
oui.
Est-ce que votre frère, qui n'avait peur de rien, et vous parliez de lui au tout début de l'émission en disant qu'il était important, petite fille, est-ce que c'est lui qui a levé pour vous aussi peut-être la peur et puis certaines peurs de la famille aussi, de faire des métiers un peu différents? Lui, il était pistard, vous avez voulu être comédienne. Est-ce que c'est lui qui a ouvert la porte?
Complètement, parce que du côté russe, c'était assez figé. Le côté protestant, c'était quand même très strict. Et mon frère, c'était comme un ovni, parce que dans un milieu comme relativement bourgeoise, tout d'un coup, de devenir... il adorait le foot au début, il était gardien de but, il a failli devenir professionnel, et puis être pistard, coureur cycliste, ça ne se faisait pas du tout dans la société protestante. Alors après, moi, quand j'ai voulu devenir comédienne, ils ont presque dit « ouf !»
Oui. À cette époque-là, quand vous êtes dans les Cévennes, justement, à l'Espérou, est-ce que vous commencez à réciter des poèmes, à jouer, à prendre goût aux mots, aux scénettes, aux jeux de rôle.
Il y avait un moment qui était un peu le temps fort de l'Espérou, c'était le 12 août, où c'était l'anniversaire de ma mère. Et là, la tradition chaque année, c'était de faire des petits spectacles. On chantait des trucs, on récitait des poèmes et on faisait des petits programmes. Et c'était un moment fort.
Et comment ça, ça combattait avec la timidité à l'époque?
Ça, c'était petite, je ne sais plus très bien comment j'étais, mais c'est vrai que j'étais plutôt timide et tout ça. Mais quand j'avais les mots des autres à dire, hein, ou un personnage, ou une récitation, ou quoi que ce soit, tout d'un coup, toutes mes inhibitions s'en allaient et je pouvais avoir vraiment un grand plaisir et j'oubliais tout. Et c'est probablement pour ça que je suis devenue comédienne, quoi. Voilà.
Vous en avez qui vous reste dans la tête des poèmes ou des choses de cette époque-là?
Oui, moi je me souviens du crapaud désobéissant. Écoutez tous en frémissant l'histoire triste et lamentable, ou non, pas forcément lamentable. Écoutez tous en frémissant l'histoire triste d'un crapaud désobéissant qui eut une fin lamentable. Sa mère lui disait souvent: petit, prends garde à la chouette, de son gros œil à tout instant elle te guette. Mais le petit riait des conseils de sa mère. Et après, je ne sais plus ce qui se passe. Et elle l'avala tout cru d'une seule bouchée. Voilà, ça se termine comme ça.
On est tous télétransportés en août à l'Espérou. Tout à coup. Votre nom, Skobeltine, à quel moment il est devenu Skob?
Ben ça, c'est mon père, parce que c'était une époque en France où il y avait quand même... où les Russes blancs n'étaient pas très bien perçus. Et mon père voulait être architecte, et pour ne pas être comme ça pointé du doigt comme russe blanc émigré, il a coupé son nom, ce qui est un peu dommage, mais enfin bon, c'est comme ça.
Vous parliez tout à l'heure de timidité et puis du spectacle qui n'était pas forcément très bien vu dans la famille. À quel moment vous décidez de choisir, de faire du théâtre et de... en quelque sorte, pas forcément suivre la famille ou les règles, les choses préécrites?
Oui, ben ça c'est assez précis, parce qu'en fait, j'étais au lycée, puis après j'ai fait Hippocane, puis je commençais à faire une licence de français, parce que j'aimais bien quand même la littérature, la poésie, tout ça. En même temps, je prenais des cours de théâtre, donc c'est Jean Douché, qui est quelqu'un d'important aujourd'hui au cinéma, qui à ce moment-là faisait un fichier d'acteurs qui transmettait à des metteurs en scène. J'avais ma photo dessus et Franju avait cette photo dont il m'a pris pour faire... En fait, c'était une figuration intelligente dans La tête contre les murs, où je jouais le rôle d'une folle mystique... au milieu de gens beaucoup plus angoissés et très désastrés dans leur tête. Donc je représentais une espèce de pureté. Et de ce rôle de figuration, il en a fait vraiment un petit rôle qui était relativement important dans le film. Et un an plus tard, je me dis, mais c'était Georges Franju au téléphone. Je dis, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, il a insisté pour que je joue le rôle principal féminin dans Les yeux sans visage. Donc c'était un peu comme un conte de fées.
Il disait même qu'il ne l'aurait pas fait sans vous.
Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il l'aurait fait quand même.
En tout cas, qu'est-ce que vous avez en commun avec Franju? Lui disait qu'à 15 ans, il s'était éduqué dans le bois de Vincennes avec les lectures suivantes: Fantomas, Freud et le Marquis de Sade. Est-ce que vous aviez des lectures ou un goût commun pour l'histoire, le fantastique ou le fantasque?
Je pense qu'à l'époque, je ne connaissais pas Fantomas, Marcus Sade, pas beaucoup. Et le troisième, c'était quoi?
Freud.
Freud, non, je n'ai pas très bien connu, mais après, il m'a énormément aidée. Parce que comme j'étais quand même mal partie dans la vie, je dis merci à papa Freud, à la psychanalyse, parce que ça m'a quand même aidé à m'accepter, à accepter le monde, à comprendre beaucoup de choses. Je pense que ça m'a aussi aidé comme comédienne. Voilà, ça a été très important. Mais après, on a eu beaucoup de complicité avec, avec Franjus sur un certain fantastique, sur le Fantomas. Ça m'a aussi beaucoup... Ça m'a beaucoup plu, toute la littérature début du XXe siècle, littérature populaire, il m'a fait connaître des choses magnifiques. Puis j'aimais beaucoup cette personne tellement cassée, tellement à la fois violente, tendre. Enfin, c'était une personne très à part. Hein.
À partir du moment où on peut voir à travers l'horreur, ou plutôt au-delà de l'horreur, ce qu'il y a de terrible, ce qu'il y a même de grotesque, et ce qu'il y a de poétique dans la réalité qu'il exprime, c'est-à-dire dans la réalité quotidienne, et qui nous est très proche, alors j'ai touché mon but.
Bon, alors là, je me permets...
Et c'est en quoi je recommande d'ailleurs ce film aux personnes sensibles. Je ne dis pas aux personnes sensibles des nerfs ou du cœur, mais aux personnes simplement sensibles, car il fait appel à la sensibilité des gens.
Mais ce médecin est spécialiste de quoi ?
Hétérogreffe, chirurgie réparatrice, bon, pas esthétique.
Dans sa clinique, je n'ai pas compris ce que faisait le petit garçon qui ne voit pas de doigts.
C'est autre chose, c'est pour montrer que le médecin est un bon médecin et un médecin compétent. Je me suis appliqué à montrer que cet homme était un homme très bien. Il fait des conférences aux annales,
oui.
Probablement.
Oui, j'ai bien vu.
C'est un homme qui a de hautes et belles relations.
Il a la rosette, j'ai vu.
Je voulais montrer que ce personnage qui faisait des choses anormales était normal. Car pour moi, la terreur ne vient que si des choses anormales sont faites par des personnes normales. Une personne anormale qui fait des choses anormales, c'est parfaitement normal.
C'était Franjus qui parlait du personnage.
Oui,
du père
d'extrait que je ne connaissais pas.
Quelqu'un de finalement, d'apparence évidemment normale, mais qui fait des choses très très anormales.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez, il avait projeté sur vous, Franjus, avec ce rôle-là ?
C'est très mystérieux, parce que je crois qu'il avait une fascination et une terreur de la violence. Et corollairement à ça... Enfin, dans ces films, je pense au Sang des Bêtes, ces courts-métrages, et aussi dans Les Yeux sans visage, et aussi comme une espèce de havre nécessaire, qui est un havre de pureté, un endroit où il peut y avoir les oiseaux, les colombes. Et je crois que j'avais un visage à l'époque, enfin, que je devais représenter quelque chose pour lui, qui représentait ce havre de pureté. Et qui était donc avec son corollaire de violence. Et donc, je lui étais nécessaire. Hein. C'est ce qu'il me disait.
Et est-ce qu'à 20 ans à peine, jouer avec ce masque, c'était quand même une contrainte assez énorme, puisque vous veniez des heures avant pour le poser Est-ce que ça impliquait un mode de jeu particulier ou quelque chose dans le corps qui a marqué peut-être le début de cette expérience avec le cinéma ?
Certainement. Moi, je n'avais pas eu l'habitude de tourner parce que j'étais toute jeune. Donc, je ne me rendais pas compte que ça avait quelque chose d'un peu anormal de tourner avec un masque. Et d'être dans ce genre de situation un peu fantastique. Et d'autre part, le fait de porter un masque, le fait d'être... À part de ne pas pouvoir parler normalement, de ne pas pouvoir manger normalement, j'ai oublié, je me souviens de manger avec une paille, uniquement de boire, parce que sans ça, mon masque se déchirait, il fallait tout recommencer. C'était quelque chose qui m'excluait du monde et qui a, je crois, engendré de façon involontaire une curieuse gestuelle où je m'exprimais beaucoup. Où j'étais obligée de m'exprimer par mon corps ou par un geste de tête ou une façon de marcher, effectivement un petit peu spéciale qui pouvait s'interpréter comme chose d'expressionniste ou parce que c'était un petit peu plus forcé par rapport à quand on a la parole, on n'a pas besoin de beaucoup bouger ou enfin c'est les mots qui viennent en premier. Et là, il y avait un autre type de comportement que j'ai proposé, quoi. et qui m'était évident et et je crois qu'il collait bien avec ce que cherchait Franju, quoi.
Alors, il y a un extrait que vous connaissez parce que vous nous en avez parlé. C'est une trépanation, ou le récit d'une trépanation.
Ah, vous l'avez.
On l'a retrouvé. Alors, c'est encore la voix de Franju, oui. Et il faut s'accrocher.
Le film le plus terrible que je connaisse, alors sur le plan fantastique, est un film qui n'était pas fait pour faire peur. C'est un film de technique chirurgicale. Il s'appelle Trépanation pour crise d'épilepsie. Ah oui, bah alors ça, c'est un film effrayant. Jamais j'ai vu autant d'évanouis dans une salle. Le docteur Glaoué, qui était là avec du cognac, n'avait plus assez de cognac. Tellement les gens ne pouvaient pas se lever, ils s'évanouissaient assis. Ah, je vais vous raconter l'histoire. C'est un film de technique chirurgicale du docteur Thierry de Martel. Alors on voit d'abord le malade qui est assis. Il est assis et il a la tête blanche et rouge. Blanc, c'est le masque, parce que quand même, hein, il est malade. Et rouge, c'est la teinture d'iode. On commence par lui faire des marques au crayon bleu. Avec le scalpel, on assise. Et alors entre en jeu le fameux trépan électrique. Zip, on fait des trous. On fait des trous. Alors ça fout le camp copeau. On introduit une scie entre les deux trous et on scie. À ce moment-là, la boîte crânienne saute. Et alors, je dois vous dire que le malade sourit. Et le médecin, le docteur Denet, dit « Le cerveau est indolore. Il ne sent rien. Le cerveau est indolore. » Et on lui met derrière des petits robinets qui coulent, afin, comme le docteur Denet disait, afin que le cerveau puisse pleurer à son aise. C'était terrible. Terrible. Et le malade souriait. Le chirurgien va chercher la tumeur qui apparaît en gris. Il extirpe. Alors les gens sont comme ça. Et le commentaire dit, voyez, tout va bien. On introduit la pince et on cautérise sur la pince. Fait que ça fume. Comme chez le docteur Faust. La fumée lui sort du corps. Alors là, c'est terrible. Les gens peuvent pas se lever. Ils peuvent pas se lever. Alors à la fin, on referme tout ça, il avait et il sourit toujours. Ça veut dire quoi? Que la souffrance du public n'est pas partagée par celui qui est sur l'écran.
Qui s'est évanoui assis en studio? Tout le monde est là.
On est là, debout.
Qu'est-ce qui vous fascinait dans ce récit de trépanation, Edith Scobb?
Qu'est-ce qui me fascine? Parce que j'ai l'impression de retrouver Franju dans tout ce qu'il avait de drôle, d'insolent, de violent, de transgressif. Enfin, je sais pas, je trouve très beau ce récit. Et puis sa façon de le raconter, parce qu'il n'y a que lui qui peut le raconter comme ça.
Georges Aperghis, comment vous décririez la voix d'Edith Scobb?
Au début, ça m'a paru très curieux, cette voix, quand on s'est connu, il y a 50 ans, plus même. Et surtout au téléphone, c'était très curieux. Au téléphone, c'était une voix un peu qui existait et qui n'existait pas en même temps. On ne savait pas très bien qui parlait. La voix a changé. Depuis, beaucoup même. Il y a eu plusieurs périodes. Hein. Et puis, elle est toujours un peu irréelle, mais ça fait partie un peu d'elle. C'est-à-dire qu'elle est un peu comme ça, un peu comme ça dans la vie. Quand elle descend l'escalier à la maison, elle touche pas les marches. Enfin, je sais pas, elle a une drôle de démarche, elle a une drôle de voix, elle fait des choses, des gestes bizarres. Hein. C'est pour ça que Franju aussi était, je pense, attiré par cette. Par ce comportement un peu étrange, comme ça. Et donc la voix suit tout ça. Ce qui est intéressant, c'est la voix au théâtre qui change complètement. Et, par exemple, quand on avait travaillé ensemble, elle avait trouvé des voix différentes qu'elle avait en elle, qu'elle ne savait pas, moi non plus, on a essayé ensemble. Et puis même des bruits vocaux que tu faisais qui étaient assez. Le contraire d'elle, en fait. De bruits assez sales, de bruits qu'on pourrait appeler vulgaires. Donc elle avait une capacité comme ça de changer de voix.
Philippe Mignana, vous qui travaillez aussi beaucoup avec l'oralité, soit pour la recevoir et puis la reconstituer, la transformer dans l'écriture, Comment vous entendez la voix d'Edith Skob, vous ?
Moi, j'ai d'abord entendu Edith Skob à la télévision dans les années 60. Elle avait une voix très grave. Je m'en souviens très bien dans les dramatiques que j'ai vues, puis les frangus que j'ai vues aussi à la télévision. Elle avait une voix basse. Et puis quand je l'ai rencontrée en 82 à France Culture, c'était une autre voix déjà. Et maintenant, c'est encore une autre voix. Ça m'avait beaucoup frappé. Et quand j'ai écrit des rôles pour elle, c'est pas entré en ligne de compte, ça, je crois. C'est des rôles qui ne ressemblent pas forcément, d'ailleurs, dans l'inventaire. J'ai pris comme modèle Jacqueline Nouratet, qui travaillait à la Thème avec Georges et Edith et d'autres personnes, et qui était une femme sportive, volontaire, syndicaliste, engagée, violente, militante, etc. Non pas que Edith n'ait pas cette capacité, mais quand les gens ont vu Inventaire, je crois qu'ils étaient très surpris de voir Edith sportive, carrée, franche du collier, etc. Et moi d'ailleurs, quand je l'ai rencontrée à France Culture, j'ai demandé ce que soit elle, et j'attendais une femme un peu éthérée, un peu étrange, un peu... Et je vois arriver une femme avec un gros pull fait main, en train de manger un poulet maillot. Et j'ai été très 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 surpris, justement, et c'était une voix, qui marquait très fort les consonnes. Et je me dis, tiens, elle a une autre voix. Donc je pense que c'est son intérieur qui... fait bouger l'extérieur, je suppose. Mais en tout cas, elle a une force d'apparition, Edith, qui me plaît beaucoup. Là, j'ai écrit un texte pour elle récemment qui sera joué, qu'elle mettra en scène et jouera au rond-point la saison prochaine, qui est un rôle plutôt, ok, vaguement inspiré de ma mère, mais c'est plutôt inspiré d'Edith, je dirais. C'est-à-dire que ce côté extravagant qu'il y a en elle, fondamentalement.
Moi, je suis juste timide. Il n'y a pas grand-chose dans ma tête. Je suis pas grand-chose. Hein. Je suis rien. J'aime bien m'accrocher, tu sais, comme les coquillages s'accrochent à un truc qu'on me propose, un truc à faire, tout ça. Je suis très transparente ou inexistante. Tu sais, je promets. Je sais pas raconter des histoires. Hein. Je suis pas terrible.
C'est vrai que tu sais pas ce que ça...
Des gens qui savent magnifiquement raconter des histoires, des anecdotes, des trucs comme ça, moi vraiment, flop.
Oui,
je
oui.
parle peu, si tu veux.
Oui, oui.
J'adore écouter, ce qui n'est pas bon pour une émission de radio.
C'était un atelier de création diffusé sur France Culture par Hélène Delprat, et c'était votre voix, Edith Skob. C'est marrant parce que on parle beaucoup d'apparition, de disparition quand on parle de vous et de votre voix ou même de votre façon d'être. Et là, vous dites, j'aime mieux, je préfère me cacher que de raconter, que d'apparaître. Vous vous sentez entre les deux ?
Ça, c'est absolument vrai. Je déteste me regarder, je déteste me regarder, ou écouter un truc que je fais au cinéma ou pour la télé. J'aime pas mon image, ni écouter. Je trouve toujours mauvais si je m'écoute. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai que j'adore écouter. Et je crois que j'écoute bien et je m'en souviens et je préfère. C'est un régal pour moi d'écouter, d'imaginer ce que les gens sont et tout ça. Je trouve ça beaucoup plus important que ce que je peux dire ou redire, ou j'ai l'impression, les quelques anecdotes que je dis, je radote. J'ai l'impression que je suis plus surprise par l'extérieur, quoi.
Alors on va écouter Françoise Breu en studio. Ça fait plus de 20 ans qu'elle nous entoure avec sa voix, qu'elle nous surélève, elle aussi, petit à petit. On l'écoute et on l'évite. C'est un peu magique, c'est rond, c'est englobant. C'est le tout début du monde. Et ce monde, cette fois-ci, elle l'a écrit elle-même. Son sixième album s'appelle Zoo. Ce sont des visions. On décolle du réel, on croise des animaux. La voix de Françoise Breu, c'est comme un trait fin sous nos pieds, puisqu'elle dessine aussi un trait qui déroute un peu la gravité. On entre dans la fantaisie à l'intérieur d'un jardin d'Éden, où Adam, par exemple, a un bronzage imparfait et où on est enfin libre d'errer.
Je suis Françoise Breu dans Backstage d'Aurélie Charron sur France Culture. la lumière ne s'éteint jamais. Dans l'espace cosmique, l'amour devrait rester une espèce en voie de disparition. Ne pourra survivre dans ce monde matériel.
En mai 1968, un très fort mouvement se produisait dans les masses populaires et dans les couches d'intellectuels. Ce mouvement n'avait pas de débouché politique. Voilà tout le problème. Nous sommes encore dans la même situation, toute différence faite par rapport à 68. Il y a un mécontentement profond. Il y a la volonté et l'aspiration à une société nouvelle. Je n'ai pas dit à la nouvelle société. Mais il n'y a pas de perspective politique sortant du présent politique de la gauche. C'est pourquoi nous faisons tant d'efforts, comme nous l'avons fait sans succès, en mai 1968, pour donner une perspective de vie politique à la gauche, c'est-à-dire une perspective de prendre le pouvoir pour faire quelque chose de clair et de mobilisateur.
Vous écrivez d'une manière très précise, mai 68, ce fut le premier grand affrontement dans un pays capitaliste industrialisé entre, d'une part, la classe ouvrière, les intellectuels, les étudiants, et d'autre part, le pouvoir.
Edith Skob, s'inscrire au Parti communiste quand on a à peu près 20 ans, dans une famille qui a fui l'URSS, c'était un peu la provocation aussi.
Un peu de la provoque, oui. Oui, oui.
Et pourquoi ? C'était l'envie de changer le monde à ce moment-là, juste avant mai 68, et ensuite l'aventure, on va en parler, que vous avez créée avec Georges Apergis. Mmh. Mais vous parliez tout à l'heure de votre grand-père aussi, pasteur, qui était très engagé. Socialement, est-ce qu'il y avait ce besoin aussi de s'engager dans la société ?
C'est-à-dire que mon grand-père, il n'est pas arrivé, mon grand-père maternel, il n'est pas arrivé à faire en sorte que je sois chrétienne et que je puisse croire en un Dieu. Et de façon un petit peu naïve, dans le Parti communiste, on laissait entendre
On se disait que peut-être le bonheur pouvait exister sur sur Terre et qu'une égalité entre les hommes pouvait peu à peu surgir et un mieux-être, il y avait un progrès, que vraiment on pouvait se battre pour ça. Et j'ai cru pendant quelques années, oui.
Et est-ce que le fait de tenter d'être institutrice, c'était la même envie ?
Oui, sûrement. Oui, parce que j'avais déjà eu beaucoup de chance. J'avais fait les yeux sans visage, j'avais fait 2-3 trucs, puis même au théâtre. Et puis, c'est probablement mon grand-père qui me faisait les petits signes comme ça, en me disant, mais tu peux pas te regarder le nombril comme ça toute ta vie. C'est un métier très narcissique d'être acteur quand même. Puis on est obligé de vivre un peu dans une bulle. Quand on est dans un rôle, le monde extérieur existe peu et tout ça. Et je me suis dit, peut-être c'est le moment de savoir qu'est-ce qu'on fait de sa vie, et peut-être m'occuper d'enfants et être instite et être... Et puis c'est pas pour des prunes non plus que je suis allée être instite à Fiveline, là où était mon grand-père, qui était déjà mort depuis longtemps. Mais donc j'avais l'impression, oui, d'essayer d'avoir une fonction plus altruiste, plus tendue vers les autres. Mais ça n'a pas duré longtemps.
Mais ça s'est transformé, parce que...
Peut-être, oui, parce que avec Georges, on a vraiment... Et puis 68, ça a été aussi important pour nous deux, pour plein de gens, plein de jeunes. Et il y a eu un moment magnifique, d'abord où plein de gens, je trouve extrêmement important, intéressant, et vraiment des gens qui se bagarraient... était au PC ou était en tout cas très sympathisant. C'est le moment où il y a eu une décentralisation au niveau du théâtre formidable, liée à Malraux, où il y a eu plein de maisons de la culture qui se sont faites, et on s'est dit que le théâtre, c'était pas fait que pour les bourgeois. Il n'y avait pas que le théâtre privé ou le théâtre de boulevard qui pouvait exister. Il y avait vraiment d'autres messages qui pouvaient être communiqués avec un théâtre complètement autre, un théâtre beaucoup plus... engagé, le théâtre n'était pas que du divertissement. Et là, je pense à une rencontre importante que j'ai faite avec Arthur Adamoff, qui est un auteur de théâtre un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui était important. Et voilà. Et donc, avec Georges, on a foncé dans la thème, où on a travaillé dans une... à Bagnolet, qui est une banlieue assez pauvre. Et au début, on a travaillé dans un sous-sol de HLM pendant une saison. Puis après, on a été très soutenus par le Festival d'automne. Donc, on avait des subventions et on a pu continuer. Mais là, je pense que Georges, tu peux mieux parler de moi. Mieux parler que moi de la thème.
C'est une vieille histoire maintenant. C'était à 76.
Oui.
Mais ça a tenu quand même beaucoup d'années. Ça continue d'ailleurs. Mais je pense que c'était une époque où l'utopie était encore pas passible de la peine de mort, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait être utopiste sans être montré du doigt comme aujourd'hui. Évidemment, tout est illusion, tout ça c'était illusoire, hein, mais travailler sans intermédiaire, c'était ça l'idée, sans intermédiaire, dans un lieu où il y a une population qui n'a jamais vu ça. Ni théâtre, ni musique, à part la télé, quoi. Ça nous a transformés, et je pense qu'il y a eu pas mal de gens qui sont passés par là, avec qui on a travaillé, professionnels, mais évidemment beaucoup, mais aussi beaucoup d'amateurs, des enfants, des vieux. Ça a fait quelque chose, et c'était pas des millions de gens, hein, c'était pas comme les concerts pop ou rock, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Voilà, c'était une petite utopie, hein. C'était la suite des années 68, des années 60 d'ailleurs, parce que c'était voilà qu'on a vécu avec Edith très fort, quoi, très dans tous les sens du terme, quoi.
Oui, et puis il y avait donc une exigence artistique énorme, puisque Georges faisait beaucoup de recherches, donc c'était très avant-gardiste quand même.
«
Et qu'est-ce que ça a apporté justement à la recherche d'être branché directement sur la vie quotidienne des gens, dans la recherche de ce langage nouveau, de créer ces liens un peu organiques entre la musique, le mot?
Ce que ça apporte surtout, bon, ça enrichit beaucoup parce qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés et des cultures qu'on n'aurait pas rencontrées aussi. Mais surtout, ce que ça apporte, c'est que ça oblige à simplifier beaucoup sa pensée. Pas à l'édulcorer, hein, mais ça simplifie pour pouvoir transmettre quelque chose aux gens qui sont pas au courant de tout ça, qui connaissent pas le solfège, par exemple, pour aller vite. Donc, voilà, ça oblige à être très précis et très clair, et que la pensée soit vraiment claire aussi. Voilà.
Tout à l'heure, Adamov, vous avez qualifié vos premières pièces de théâtre de la séparation. Pourriez-vous préciser un peu cette idée? Qu'entendez-vous, au sens le plus profond du terme, par séparation?
J'entends la difficulté, sinon l'impossibilité. Non, n'exagérons pas, je ne dirai pas l'impossibilité, mais la difficulté qu'a chacun de communiquer avec chacun, chacun étant muré dans sa propre histoire. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce premier théâtre, c'était justement comment toutes ces histoires, malgré tout, se heurtaient, s'entrechoquaient entre elles, car, qu'on le veuille ou non, on vit en société.
C'était la voix d'Adamov dont vous parliez. Et je crois que ces conflits, ces perturbations, ces rencontres entre les mots, les sons, les gens, ça faisait aussi très fort partie de votre recherche.
À moi, ça m'a beaucoup influencé parce que, en fait, avec la rencontre avec Edith, il n'y a pas que Edith, c'est la rencontre du théâtre qu'elle est. Et du cinéma, donc des acteurs, des coulisses, du texte. Qu'avant je connaissais comme chacun connaît, mais enfin là j'entrais dans un monde complètement bon. Puis moi j'avais la musique, Edith aimait beaucoup, on avait le même goût à peu près pour la musique classique, pour la variété aussi, on aimait beaucoup la variété avec Edith, on aime toujours, enfin la chanson, ce qu'on appelle la variété française, en fait tout ça, et aussi le rock, la pop, on était très bon, on écoutait beaucoup, moi j'amenais beaucoup de disques, j'écoutais presque plus de musique pop et rock que de la musique contemporaine, en fait. Donc oui, on était complètement dans ce monde là et tout ça évidemment m'a beaucoup aidé à trouver ma voix à moi, avec les mots, les textes, les syllabes, les jeux entre différents styles, voilà. You say mama, you say baby, you just put the TV dinner and you make it in papa. No, we're gonna get a TV dinner and cook it up. Oh, get a TV dinner and cook it up, cook it up. Oh, and it won't happen here. No, 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 man, you guys are really safe, everything's cool. I remember Tutu, I remember Tutu, I remember Tutu, they had a swimming pool. I remember Tutu, I remember Tutu, they had a swimming pool. Vous avez l'air heureux d'écouter Frank Zappa, Jean-Jacques Berguis et Edith Scob. Vous avez l'air heureux. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, parce qu'on écoutait beaucoup ça.
Ça nous faisait rigoler. Moi, je n'avais pas écouté, c'est formidable.
C'était une bouffée d'air frais, en fait. Des libertés, quoi, par rapport même à la variété, et même à la pop de l'époque, qui était quand même des choses, par rapport aux Beatles, par exemple, tout ça, c'était... Bien que les Beatles, c'était après, mais tout ce qui a précédé, ce rock un peu qu'on connaissait depuis Elvis, bon, qui était quand même des chansons, là, tout d'un coup, il y a une espèce de parce qu'un happening, quoi, qui rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec les Rolling Stones, avec ce qui est passé avec Andy Warhol, et tout ce mouvement américain.
Et est-ce que c'est un moment, Edith Scob, où le cinéma vous décevait un peu, où vous trouviez plus de plaisir et de sens à cet endroit-là, de l'atelier de théâtre-musique à Bagnolet?
Quand on a travaillé ensemble, c'était
C'était vraiment une expérience tout à fait passionnante. J'ai foncé. On était toute une équipe. Hein, on était plusieurs comédiens, des musiciens. C'était passionnant parce qu'on cherchait, on inventait. Donc, moi, j'ai suivi. Comme ça, on a travaillé ensemble pendant 6 ans, 7 ans. Et puis après, je me suis rendu compte que j'étais totalement oubliée. Au théâtre, au cinéma, un petit peu partout. Puis on a eu des enfants, donc j'étais aussi. Je m'en suis occupée parce que je les aimais. Et donc, j'étais perdue. Et tout d'un coup, le théâtre m'a manqué alors énormément. Alors, on m'aurait proposé de juste ouvrir la porte et de dire, madame, le thé est servi. Ou je disais, mais vraiment, je me serais précipitée. Hein. J'étais perdue, j'étais oubliée. Et puis, petit à petit, j'ai remonté la pente. Et aujourd'hui, par exemple, au cinéma, j'ai vraiment beaucoup de... Enfin, pas tout le temps, mais quelquefois, enfin, quand le réalisateur ou la réalisatrice est intéressante, c'est très passionnant, le cinéma, je trouve, parce qu'on n'est pas que dans les mots, il y a une espèce d'intimité qu'on peut avoir, on existe vraiment en tant que personne, c'est très... très très intéressant. Et puis je me suis remis au théâtre aussi, voilà.
Il n'y a pas de petites gens. Ça n'existe pas. Je ne comprends pas cette expression.
Les petites gens sont les gens qui entrent depuis fort peu dans la littérature, qui sont des gens...
Ce sont des gens.
Oui.
J'ai jamais fait la différence. Il y a des femmes du monde aussi dans mes livres. Des consuls, des ambassadeurs. Les mendiants, mais c'est bien pareil. Enfin,
par exemple, enfin, le soir, sont des petites gens. Sociologiquement, économiquement.
Non, moi je dis le soir, c'est deux personnes qui ont une dialectique naturelle, naturellement révolutionnaire, et qui poussent jusqu'au bout. Vous voyez ? C'est une différence de langage.
C'était la voix de Marguerite Duras pour qui les petites gens n'existent pas, et elle parlait de Le Square,
oui,
que vous avez joué au théâtre, Edith Scob.
Oui, oui, avec un Régis Chauffard, oui, c'est un grand souvenir, oui.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté d'être traversée par son langage à elle dans ses débuts au théâtre?
Ben, c'est curieux parce que ça peut être lié à un travail que fait Claude Régis des fois, ou elle, c'est qu'on est traversé par les mots, et c'est les mots, quand on l'entend parler, c'est magnifique, parce que il y a tous les mots qui résonnent, et en tant qu'actrice là-dedans, c'était aussi tout d'un coup une espèce de disparition du personnage au profit de cette espèce de parole dite, parole lancée, parole qui fait écho, qui est là, qui plane, qui flotte, qui existe. C'est une impression assez étrange d'interpréter un texte de Marguerite Duras.
Et avec Claude Régis, c'était intérieur ?
Oui, voilà.
Et là aussi, il y avait ce travail sur être là, dans un ensemble.
Voilà. Et avec les deux, surtout avec Claude Régis, j'ai eu quand même ça, c'était un rôle muet que je faisais. D'un personnage, c'était la mère de famille, il y avait ses enfants autour d'elle. Et l'histoire, c'est l'annonce petit à petit de, de la disparition de la fille aînée qui en fait est tombée dans l'eau ou s'est jetée dans l'eau. On ne sait pas si elle s'est suicidée. Une nouvelle qu'on n'ose pas raconter à une famille qui est là et qui vit tranquillement de façon paisible. Et le fait d'être sur le plateau comme ça pendant une heure et demie sans texte, j'ai vraiment une impression, presque une impression mystique, c'est-à-dire l'impression de disparaître ou de ne plus exister et d'être lié comme ça à la terre entière et d'être dans une espèce d'autre présence au monde. C'est une chose très étrange que j'ai eue comme expérience, quoi.
Et la première fois que vous avez eu envie de mettre en scène des mots, donc de créer votre propre monde, c'était des mots de Philippe Mignana.
Oui, absolument, parce que on se connaissait très bien avec Philippe, et il avait écrit un texte que je trouvais très beau, qui s'appelle « Où vas-tu, Jérémy ?», une espèce d'épopée du monde, d'épopée de la misère, et qui est... C'est une espèce de parcours où il y a des chants de détresse, des cris.
Philippe Mignana, vous aussi, c'était pas forcément évident, petit, d'entrer dans ce monde-là. Je crois que votre mère vous interdisait d'écrire des nouvelles pour la revue du lycée. L'écriture, c'était un enjeu d'entrer en écriture.
Oui, oui, ma mère, elle avait peur. Elle a vu que j'étais un artiste et que, comme beaucoup de mères, j'imagine, surtout à l'époque de l'année 60, c'était un peu... ne perds pas ton temps. Tu as perdu ton temps. Alors qu'effectivement, mes nouvelles étaient publiées au lycée, j'étais très fier. Et je me souviens de la scène comme c'était hier, alors qu'il y a si longtemps, j'avais 17 ans. Et je reviens un peu sur ce que j'ai entendu à l'instant, je voulais témoigner sur l'ATHEM. J'ai découvert l'ATHEM bien avant de les connaître.
L'atelier théâtre musique.
L'ATHEM en 71, je me souviens toute ma vie, à Villeneuve-d'Avignon, pendant le festival d'Avignon. Et je me suis dit, mais ces gens-là, ils sont incroyables, parce qu'ils sont libres. Libre. Actuellement, les gens ne sont plus libres. Je voyais de la liberté, je voyais du plaisir et de l'inédit. Or, politiquement, l'inédit, c'est ce qu'il y a le mieux. Et j'ai découvert là Edith Cobb, que je connaissais déjà par la télévision. Et j'étais très, très, très troublé par ce travail. Donc après, quand j'ai fréquenté Georges et Edith, j'ai à peu près tout vu ce qui se passait à la télé. Mais chaque fois, j'étais joyeux. Parce qu'ils étaient joyeux. C'est une autre époque qui n'est plus du tout possible de renouveler aujourd'hui. Mais il y avait, j'ai découvert Judith Magre, Michael Lonsdal dans ces spectacles-là. Et il y avait beaucoup d'humour, beaucoup de génie aussi. Le truc, la musique de Georges, j'avais jamais entendu ça. Donc c'était vraiment pour moi une énorme découverte. Et là, ensuite, quand Edith a monté ma pièce, c'était aussi une aventure très, très... En osmose. Enfin, je ne donne pas une pièce à quelqu'un et puis je l'abandonne. Non, j'ai tout réécrit, le texte, en fait, totalement réécrit pour le peu d'acteurs que nous avions. Il y avait 36 figures, je crois, et il n'y avait que 3 acteurs et un musicien. Et donc j'ai tout retravaillé. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une aventure. Ce n'est pas un spectacle de plus.
Vous préparez la mise en scène de 21 rue des Sources ?
Oui.
Ce qui sera le prochain texte, mais voilà. Par contre, vous aviez envie de lire un extrait d'Inventaire de Philippe Mignana.
C'est donc 3 monologues de femmes, Inventaire, un spectacle qu'on a énormément joué. Et là, je joue le personnage de Jacqueline. Qui s'adresse au public et qui dit « Voilà, pendant des années, j'ai été sans homme. J'avais envie d'un homme. Dans le métro, je regardais leur dos, leurs fesses. Et puis, le syndicat m'a fait connaître 2 Portugais en conflit avec leur entreprise. Il fallait rencontrer l'inspecteur du travail, les aider. Il y en avait un moins jeune et un plus jeune. Et le moins jeune, il avait 5 enfants au Portugal. » Il était opposé au régime, il voulait faire la révolution, on s'est mis ensemble. J'ai fait pousser dans ma cuvette à Bagnolet du persil et du thym, parce qu'il aimait le thym, il était maçon.
Mes enfants, faut pas les chatouiller. Il en a eu du fil à retordre. Il était très paterfamilias. Il était malheureux. Il disait qu'il vivait avec des enfants qu'il n'aimait pas, que ceux qu'il aimait, il ne les voyait pas. Quand il les verrait, il ne les reconnaîtrait pas. Qui voulait un enfant ici, en France ? J'avais fermé la boutique depuis plus de 10 ans et j'ai remis ça. Et le 8e, ça a été extra. L'enfant que les femmes, elles font aujourd'hui, celui qu'elles ont décidé de faire. Ah non, je veux pas en faire un. Et puis, ah si, je veux en faire un. Avec la contraception, c'est facile. J'ai retiré mon stérilet et on a attendu pendant 6 mois et rien. Et puis, il y a eu l'enterrement de De Gaulle. C'était congé pour tout le monde. On a fait l'amour et ça a marché. Je suis allée à la polyclinique des Bleuets, là où on a introduit la méthode de l'accouchement sans douleur. J'étais en pleine forme, j'astiquais. On t'apprend à écouter l'enfant qui se développe. Moi, je veux bien être mère porteuse, faire des enfants tous les ans pour celles qui en veulent. Alors, si ça vous intéresse, mesdames, profitez-en.
Georges Lapergis, vous parliez de la voix d'Edith Skop. Au début de votre rencontre au téléphone qui allait et venait, aujourd'hui quand vous l'écoutez, comment vous parlez de son évolution, comment elle est aujourd'hui?
Mais là, elle a changé complètement de voix, d'ailleurs, parce que tout d'un coup, c'est quelqu'un d'autre. Et puis, non, mais en même temps, il y a une chose qui est paradoxale, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la fragilité et tout ça, c'est quelqu'un de très solide, beaucoup plus solide que plein de gens. Qu'on croit solide d'ailleurs. Elle est très forte, elle a un corps qui est bien là. Elle a été une maman très, très chaleureuse et très, très maman, quoi, très maternelle. Ça veut dire que c'est pas un petit ange avec des ailes. Il hein. n'y a pas que ça. Et donc la voix change aussi par rapport à tout ça. Elle n'avait pas la même voix quand elle grondait les enfants. C'est pas que la petite voix gentille. Quoi. Elle peut être cassante, elle peut changer de voix complètement, comme on l'a vu tout à l'heure, là, ici maintenant. Voilà.
Et l'envie de disparaître ou de se cacher, elle a disparu?
Oui. C'est affreux parce que plus je vieillis, plus j'aime la vie. C'est terrible. Mais c'est bien en même temps.
On sera parti d'un masque pour l'enlever, des yeux donnés pour s'inventer et se dessiner un visage et une bouche pour parler. Edith Skop, c'est un long corps, les bras ouverts, pour relier toutes les parties du monde. Avant la nuit, je dis merci à Boris Pinault, à Delphine Lemaire pour la réalisation et à la technique, merci à Jean-Richard Dufour et Jean-Benoît Tétu.